l'écoute de VOA Afrique.
Bonjour, au micro Idrissa Seloudia. En Guinée, des partisans du pouvoir sont accusés d'avoir empêché dimanche le cortège de l'opposant et candidat à la présidence Seloud Alain Diallo d'atteindre Kankan, bastion électoral du président sortant Alpha Condé dans l'est du pays, a appris l'AFP auprès de l'opposition et de sources officielles. Le ministre de la Sécurité Albert Damatan Camara a dit à l'AFP être au courant que le cortège de Seloud Alain Diallo a été bloqué, mais il a tenu à réfuter les allégations incriminant les forces de l'ordre, notamment la police. La campagne électorale est comme souvent agitée en Guinée, avec plusieurs morts recensés, dont un fin septembre à Dalaba, dans le centre, bastion de M. Diallo, dans des troubles lors d'un déplacement du Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, directeur de campagne de M. Condé, candidat en troisième mandat controversé. Au Mali, le président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, dit avoir bon espoir d'une transition réussie dans ce pays. Nous y reviendrons dans quelques instants. En République démocratique du Congo, le parc national des Virunga, joyau naturel et touristique de l'est du pays, a annoncé dimanche la mort d'un éco-garde samedi dans une attaque attribuée aux rebelles Hutu rwandais des FDLR. Le parc ajoute dans son communiqué que de multiples témoignages recueillis dans la communauté font aussi état de pillage par ce groupe avant et après l'attaque. La dernière attaque des FDLR contre des éco-gardes avait causé la mort de 12 rangers fin avril. Au moins 11 migrants ont péri dans le naufrage de leur embarcation dimanche au large de la Tunisie, a annoncé un représentant des services de sécurité tunisiens. Les gardes-côtes ont retrouvé les corps de 8 femmes et de 3 enfants. Au moins 30 personnes avaient embarqué sur le bateau à destination de l'Italie, ajoutons de même source. L'an dernier, près de 90 migrants africains se sont noyés lorsque leur bateau a chaviré alors qu'ils essayaient de rejoindre l'Europe, un des pires naufrages ayant eu lieu dans les eaux tunisiennes. Londres et Nairobi ont annoncé dimanche organiser au Royaume-Uni à la mi-2021 un sommet co-présidé par le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président kényan Uhuru Kenyatta est destiné à lever des fonds pour la scolarisation des enfants dans les pays pauvres. Selon les deux capitales, la pandémie de coronavirus risque de priver des millions d'enfants d'école. Depuis sa création en 2002, le Partenariat mondial pour l'éducation a contribué à scolariser 160 millions d'enfants et à doubler le taux de scolarisation des filles dans les pays où il agit. Le nombre de cas de coronavirus a franchi dimanche en Inde le seuil des 7 millions, un chiffre qui se rapproche de celui atteint par les États-Unis, le pays au monde le plus touché avec près de 7,7 millions de cas recensés et plus de 213 000 morts. Le président américain Donald Trump a pour sa part rassuré dimanche qu'il n'était plus porteur du COVID-19 et qu'il n'était plus contagieux, à la veille de repartir en campagne à quelques semaines de l'élection du 3 novembre. Il a expliqué dans une interview à Fox News que les tests qu'il avait passés montraient qu'il pouvait reprendre sa campagne sans risquer de contaminer d'autres personnes. Les Los Angeles Lakers ont été sacrés champions NBA pour la 17e fois de leur histoire, égalant le record des Boston Celtics après avoir battu 106-93 le Heat de Miami dimanche dans la bulle de Disney World en Floride. Leur superstar, LeBron James, a été désigné MVP, meilleur joueur de la finale. C'est son 4e titre en 10 finales disputées. Le reste de l'actualité sportive dans quelques instants avec notre confrère Élisée Ongpatine. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. en votre compagnie, Idrissa Seloudia. La suite de nos informations. Mali, le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, a dit dimanche à Bamako avoir bon espoir que les autorités de la transition respecteront leurs engagements. Il a effectué dimanche une visite, 5 jours après la levée des sanctions de la CEDEAO. Bagassi Koura.
Pour le moment, toutes les actions entreprises par les autorités de transition nous donnent bon espoir qu'elles tiennent les engagements pris envers nous, a déclaré Akufo-Addo lors d'une brève conférence de presse au terme de sa visite. Le président en exercice de la CEDEAO a, je cite, exhorté les autorités de la transition à finaliser le calendrier du processus électoral pour arriver aux élections présidentielles et législatives dans le délai indiqué, selon un communiqué lu lors de la conférence de presse. Le président ghanéen a également rencontré l'ex-premier ministre Boubou Cissé, une des 11 personnalités civiles et militaires détenues après le coup d'État et dont le colonel Goïta a annoncé mercredi la libération. Cette libération était une des exigences de la CEDEAO. Une autre de ses exigences, la dissolution de la junte, le CNSP, n'a en revanche pas encore été satisfaite ni officiellement été évoquée pendant la visite du président ghanéen. Au lendemain de la formation d'un gouvernement de transition, le 5 octobre, l'organisation régionale a levé les sanctions comprenant un embargo commercial et financier imposé au Mali le 20 août, 2 jours après le putsch qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta.
Au Nigeria, la présidence a annoncé dimanche la dissolution avec effet immédiat de la force d'unité spéciale de la police après une semaine de forte mobilisation contre les violences policières. Le point avec Abdourahman Dia.
La brigade spéciale de répression des vols a été dissoute avec effet immédiat, a fait savoir la présidence sur son compte Twitter. De son côté, la police a assuré que les officiers de la SARS seraient redéployés dans d'autres brigades de criminels et qu'une unité spéciale de surveillance des crimes commis à l'encontre des citoyens sera mise en place. Depuis plus d'une semaine, les Nigérians exigeaient la dissolution de la SARS, accusée d'extorsion de la population, d'arrestations illégales, de torture et même de meurtre. La contestation est née sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo montrant des agents présumés de la SARS tuant un homme dans l'état du Delta. Les violences policières au Nigeria, pays de 200 millions d'habitants, étaient le sujet le plus partagé au monde vendredi en fin d'après-midi sur Twitter. Des centaines de Nigérians, essentiellement des jeunes, sont également descendus presque tous les jours de la semaine dans les rues de plusieurs grandes villes du sud du pays, ainsi qu'à Abuja, la capitale fédérale.
Les forces arméniennes séparatistes du Nagorno-Karabakh et l'armée azerbaïdjanaise se sont accusés mutuellement dimanche de violation de l'accord de trêve signé la veille. Le point avec Michel Joseph.
À peine signé, l'accord semblait déjà caduc. Dans l'après-midi de dimanche, aucun échange de prisonniers ou de corps n'avait été annoncé, alors que c'était l'objectif du cessez-le-feu humanitaire négocié à Moscou et qui devait entrer en vigueur samedi à 8h GMT. L'Azerbaïdjan a accusé les séparatistes arméniens de ne pas respecter les conditions de la trêve, faisant état notamment d'une frappe nocturne sur Ganja, deuxième ville du pays, qui a fait 9 morts parmi les civils. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a annoncé sur Twitter une violation flagrante du cessez-le-feu et un crime de guerre. De son côté, le porte-parole de l'armée arménienne a accusé l'armée azerbaïdjanaise d'avoir mené des assauts vers le sud, utilisant des véhicules blindés et des missiles, en violation de l'accord du cessez-le-feu. Selon lui, les unités séparatistes ont résolument supprimé toutes les opérations ennemies. Dimanche soir, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, a fait part de son extrême préoccupation. Les combats qui ont repris depuis le 27 septembre sont les plus graves depuis le cessez-le-feu de 1994.
La Minute Écho, John Lyndon.
Les mesures prises par la Tunisie pour faire face à la flambée des cas de coronavirus vont avoir des conséquences sociales désastreuses. Les observateurs prédisent une flambée du chômage et de nouvelles vagues de faillites dans ce pays, déjà à la peine économiquement. La première vague de la pandémie a entraîné la perte de 165 000 emplois selon le patronat tunisien. 40% des entreprises et d'artisanat ont déjà mis la clé sous la porte et environ 35% des PME sont menacées de faillite. Les États africains ont besoin de 1 200 milliards de dollars de financement jusqu'en 2023 pour surmonter la crise provoquée par la pandémie du COVID-19. C'est ce qu'a annoncé vendredi la directrice générale du FMI, soulignant que quelques 345 milliards étaient pour l'heure manquants. Les engagements des prêteurs bilatéraux officiels et des institutions internationales couvrent moins d'un quart des besoins prévus, tandis que les capitaux privés sont toujours limités, a déploré Kristalina Georgieva dans un discours prononcé à l'occasion d'un événement virtuel baptisé « Mobilisation en faveur de l'Afrique ». Ici aux États-Unis, Apple devrait lancer sa première gamme de smartphones équipés de la technologie 5G mardi. Les très attendus iPhone 12, plus d'un an après ses deux rivaux Samsung et Huawei. Apple a annoncé son événement marketing avec une formule critique « High Speed, Bonjour Vitesse » qui semble faire référence à l'accélération du débit promise par la 5G.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, les sélections africaines ont fait leur retour sur les terrains après près d'une année pour cause de coronavirus.
Oui, et ces rencontres amicales servent de test pour les qualifications de la CAN 2022. Une trentaine de matchs amicaux sont au programme. Après avoir dominé 3-0 la RDC pour son premier match, le Burkina Faso va en découdre ce soir avec Madagascar. Et pour le milieu terrain burkinabé Brian Dabo, quelle que soit l'issue de ce match, le plus important est de se projeter sur les éliminatoires de la CAN au Cameroun qui reprend en novembre.
Donc ce match-là contre Madagascar encore, ça va être un test. Que ce soit qu'il y ait une victoire ou une défaite, nous ce qui nous intéresse c'est le contenu du match et de rendre fier le pays. Donc on peut gagner, on peut perdre, mais il faut que les gens ils soient fiers de nous au pays.
À l'instant, Brian Dabo au micro de notre envoyé spécial Kader Traoré. Pour le reste des matchs d'aujourd'hui, le Togo jouera le Soudan et le Ghana affrontera le Qatar.
On a assisté dimanche, Élisée, à quelques matchs.
Exactement, Idrissa. Et au Portugal, le Bénin a battu le Gabon sur la marque de 2-0, sur des réalisations de Sébio Soukou et de Steve Mounier. La Zambie, de son côté, est allée battre l'Afrique du Sud à Rustenburg, score 2-1. Victoire aussi en déplacement du Burundi 1-0 à Dar es Salaam face à la Tanzanie. Succès des Comores 2-1 face à la Libye et puis nul 0-0 entre le Malawi et le Zimbabwe.
Au Maroc, c'est le Raja de Casablanca qui est sacré champion à l'issue de la dernière journée de la Botola.
Tout à fait. Les Aigles Verts doivent le titre à Abdelilah El Afidi, auteur d'un doublé contre l'ASFA à l'issue d'une dernière journée riche en suspense que nous raconte Amine Birouk, notre correspondant à Casablanca.
Mais Manfred Hitchcock n'aurait pas pu imaginer pareil scénario. En effet, le dénouement du championnat marocain était une suite de rebondissements plus étonnants les uns que les autres. Entre un Raja qui avait son destin en main et un Wydad qui devait gagner et attendre un cadeau de l'ASFAR lors de la confrontation face aux Verts et Blancs. Et puis pour compliquer le tout, une formation de Berkane prête à brouiller les cartes pour une place en moins en Ligue des Champions. Finalement, nous avons vécu 90 minutes d'anthologie avec un Raja sacré à la 92e minute. Un but de Hafidi lors de l'ultime souffle de la partie face au Phare a permis aux Verts et Blancs de fêter le 12e titre de leur histoire. Un titre arraché à un Wydad qui s'est vu en haut de l'affiche après sa victoire in extremis devant le FUS à Rabat 2-1. Finalement, ce cru de la Botola a été le plus passionnant depuis 10 ans. Il consacre la formation la plus régulière depuis le retour de confinement. La fourmi Rajaoui a pris le pas sur la cigale Widadi après une édition palpitante. Ce soir, une partie de Casablanca fait la fête alors qu'une autre moitié pense ses plaies. Depuis Casablanca, Amine Birouk pour VO Afrique.
En Europe, Ligue des Nations, la France tenue en échec par le Portugal.
L'affiche du groupe 3 de la Ligue A de cette compétition s'est conclue par un score nul et vierge entre les Français et les Portugais au Stade de France. Avec 7 points, les deux sélections continuent de se partager la tête de cette poule. Au sein du groupe 1, l'Italie ramène le nul de Pologne et garde les commandes avec 5 points, soit un de plus que la Pologne et les Pays-Bas. Dans le groupe 2, le Danemark s'est facilement imposé en Islande 3-0. Troisième de la poule, les Danois se trouvent à 3 longueurs de l'Angleterre qui a battu la Belgique 2-1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République centrafricaine, à quelques 2 mois de la présidentielle et des législatives, l'inquiétude demeure sur le plan sécuritaire. Pour l'opposition, rien ne garantit la tenue de ces élections à la date indiquée du fait des activités des groupes armés, malgré l'accord de paix. De leur côté, le gouvernement et l'ONU assurent avoir mis en place un plan global pour la sécurisation de ces échéances. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
L'inquiétude est non seulement grande au sein de l'opposition, mais aussi au sein de la société civile. Certains groupes armés, notamment l'UPC, dirigé par le chef de guerre nigérien Ali Darassa, le mouvement 3R du Camerounais Sidiki Abbas et le MPC de Mahamad Al-Khatim, d'origine tchadienne, continuent d'inquiéter les acteurs du processus électoral. Ces groupes armés soufflent le chaud et le froid, autorisant ou suspendant, comme bon leur semble, les activités de recensement électoral dans les zones contrôlées par leurs hommes. Un fait inadmissible, selon Mouhamar Bengeboussin, porte-parole du KNK, parti de l'ancien président François Bozizé, membre de l'opposition.
Un petit groupe de bandits empêche le gouvernement qui nous promet qu'il y aura des élections à la date prévue, mais voilà que le gouvernement ne peut pas organiser un enrôlement. Voilà que le gouvernement n'est pas capable de déployer des policiers ou des gendarmes ou des soldats à Kouy. Il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de soldats. Le gouvernement est dépassé et voilà ce gouvernement qui croit. Ça fait sourire.
Joseph Bindoumi, ancien ministre de la Défense et président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, ne cesse de s'interroger sur la nécessité de multiples négociations avec les leaders étrangers de ces groupes armés.
Je voudrais penser qu'en Russie, si vous demandez à un Russe, est-ce que la Russie, à la date d'aujourd'hui, peut accepter qu'il y ait des mouvements armés qui occupent une partie de son pays, etc. Je voudrais demander au Cameroun, à côté de nous, est-ce que le Cameroun accepte qu'il y ait des groupes armés qui occupent une partie du Cameroun, et puis que le Cameroun dise oui, bon, je vais aller négocier avec eux pour qu'on m'autorise à enrôler mes électeurs et puis à faire des élections chez moi. La réponse est non.
Pour le pouvoir en place, le gouvernement n'est pas dépassé. Le moment viendra où, je cite, ces bandits seront chassés. Fin de citation. Jean-Saint Fourouien Mapinzi, premier vice-président de l'Assemblée nationale et cadre du parti MCU, parti du président centrafricain Faustin Archange Touadéra.
Nous sommes respectueux de nos engagements. Mais le jour où nous aurons le temps de faire la guerre ou, si vous voulez, de chasser ces bandits, nous le ferons. Mais pour l'instant, laissons la place à la négociation, parce que négocier n'est pas une faiblesse.
Depuis le mois d'août dernier, la MINUSCA et les forces armées centrafricaines ont lancé une vaste campagne militaire contre les positions du mouvement 3R dans le nord-ouest de la République centrafricaine, opération dénommée Alalondo. La force conjointe dit reprendre à ce groupe armé le contrôle de plusieurs localités, dont la ville de Kouy, un de ses principaux fiefs. Le député Martin Ziguélé, président du MLPC, était avec une mission gouvernementale début octobre 2020 dans cette localité. Le constat est alarmant.
Je n'ai pas vu de militaires étrangers ou centrafricains dans la ville au titre de l'opération Alalondo. Est-ce que la population est sécurisée dans les zones où on nous dit qu'il y a l'opération Alalondo? La réponse est non. Claire et nette.
C'est dans ces conditions que les élections seront-elles organisées? Non, réplique la MINUSCA et le gouvernement centrafricain qui annonce avoir mis en place un plan intégré de sécurisation de ces scrutins. C'est ce qu'explique le premier ministre centrafricain Firmin Gribada.
C'est un document qui répond à certaines menaces qui sont identifiées. Il s'agit d'une disposition que nous avons prise pour assurer au mieux le bon déroulement du processus électoral.
Le premier tour des élections centrafricaines est prévu le 27 décembre 2020. L'autorité nationale des élections annonce la publication des listes électorales à partir du 12 octobre. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En Guinée, le prochain président, qui sera élu le 18 octobre, aura comme priorité l'amélioration des services sociaux de base. Parmi ces services figure l'accès à l'eau potable qui manque dans certains quartiers de la capitale. De Conakry, Zakaria Camara, notre correspondant en Guinée.
À Dixine, quartier périphérique de Conakry, la pénurie d'eau potable est chronique. Ici, c'est dans des bidons de 20 litres que les habitants s'approvisionnent. Même s'il peut vendre par jour jusqu'à 1000 bidons d'eau potable, Tamba Joseph souhaite voir les robinets couler dans un avenir proche.
S'il n'y a pas l'eau dans un pays, dans une société, rien ne marche. Moi, je demande tout juste au gouvernement vraiment de venir au secours de la population, précisément à Dixine, pour que vraiment les Dixine qui aient de l'eau.
Conakry connaît une urbanisation galopante et pour faire face à la pénurie d'eau potable dans la capitale, la SEG, Société des eaux de Guinée, a installé des cuves à eau ravitaillées par des camions-citernes. Malgré 4 points d'eau à Amdalaï Mosquée, la demande reste toujours grande, comme l'explique cette ménagère.
Non, nous n'avons pas quand même de l'eau sur les pompes là. On gagne de l'eau au niveau des fourrages avec les voisins. Pas tous les jours aussi. On va là-bas commander de l'eau, on gagne les lundis, partir le soir comme ça. Il y a deux sortes de fourrages ici, pour les voisins et pour l'autre, pour le gouvernement. Nous étions sortis ici, on a grévé, on n'avait pas de l'eau ici à la pompe, on n'avait pas de fourrage aussi. Nous sommes sortis ici, ils nous ont demandé qu'est-ce que nous voulons, on a dit que nous voulons de l'eau. Alors maintenant, ils nous ont dit qu'ils vont installer l'autre, le fourrage là pour nous. Mais on ne savait pas qui c'était payant ou pas. C'est par après qu'ils nous ont dit que c'est payant.
Dans ce quartier de la banlieue de Conakry, certains habitants gagnent de l'eau potable grâce à la générosité des familles qui se sont dotées d'un forage. Tierno Ousmane, propriétaire d'un puits d'eau, dit comprendre les difficultés de ses voisins.
8 ans, on n'a pas de l'eau ici, là, de la SEG. Notre forage ici, on a donné ça à 2 de nos voisins, plus la mosquée. Ça, c'est gratuit. À partir de 18 heures comme ça, là, on leur donne de l'eau. On a un groupe ici. S'il n'y a pas l'eau courante, parfois on allume juste pour 3 heures de temps. Donner à la population de l'eau, puis on referme.
Donner de l'eau potable à tous, c'est l'une des promesses de campagne des 12 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 18 octobre. Et pourtant, ce sujet et d'autres sont peu commentés, laissant place aux attaques entre candidats. Il y a quelques jours, l'ONU a mis en garde contre les discours à relents ethniques en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Mali, les ex-otages sont tous bien arrivés chez eux. Soumaïla Cissé, Sophie Petronin et les deux Italiens Nicolas Tiaccio et Pierre Luigi Macali. À Bamako, joie après la libération de Soumaïla Cissé et élan d'union et de solidarité, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
La libération de Soumaïla Cissé avait été réglée par l'ancien président Ibeka, nous informe l'un des intermédiaires, qui ajoute que c'est la libération de Sophie Petronet qui a été gérée à la dernière minute. Soumaïla Cissé, président du parti IRD.
J'ai passé 6 mois dans les conditions que vous savez, dans des conditions de vie très difficiles, vous le savez, dans le Grand Sahara, dans un isolement qui est quasi permanent dans cette zone. Mais je dois avouer que je n'ai subi aucune violence, ni physique, ni verbale. Mais aujourd'hui, le propos, c'est pour remercier. Remercier les nouvelles autorités maliennes. Le président et le vice-président ont été investis le 25 septembre. Dès le 26 septembre, j'ai été faire une vidéo à la demande de mes ravisseurs pour donner signe de vie.
Les ex-otages ont été présentés aux autorités de la transition au palais de Koulouba. C'est après que Sophie Petronet a quitté Bamako.
Comme ça va beaucoup mieux. Je remercie les autorités maliennes pour tout ce qu'elles ont fait. Le gouvernement français qui, paraît-il, a œuvré également. Ce pays, j'y ai passé presque un quart de siècle, dans le nord, pour soigner les enfants, la malnutrition, etc.
À Badlabougou, l'un des quartiers populaires de Bamako où réside l'opposant Soumaïla Cissé, c'était la joie.
J'ai toujours crié à ce que Soumaïla sera parmi nous. Aujourd'hui, ce n'est que de remercier le Tout-Puissant Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous avoir montré ce moment et de remercier l'ensemble des Maliens.
Quand je vis Soumaïla, je n'ai pas pu tenir mes larmes parce que Soumaïla, c'est un enfant béni, vraiment. Soumaïla, c'est Soumaïla de tout le monde et il est venu, je suis très très heureuse.
Le retour de Soumaïla Cissé est diversement apprécié à Bamako.
Le retour de Soumaïla fera vraiment un impact sur les stratégies politiques. Mais ce qu'ils insistent surtout, ils doivent être comme une bibliothèque au cours duquel les jeunes de la classe politique peuvent prendre des conseils.
Sa venue, ça peut donner un élan et je pense que après son repos et après tout ce problème, je pense qu'il va s'y atteler pour vraiment aider les nouvelles autorités, comme il l'a dit.
Certains Bamakois pensent que l'élan de solidarité et l'union entre les Maliens qui a prévalu pour la libération de Soumaïla Cissé doit être maintenu.
Parce que nous avons tous su qu'au-delà des colorations politiques, au-delà de la famille, le Mali s'est montré uni derrière Soumaïla jusqu'à ce qu'il s'est retourné. C'est cet élan de solidarité nationale. Nous pensons que cette situation sera là, toute la même pour toutes les questions d'intérêt national pour le peuple malien. Que ce soit la voie qui va ouvrir vers le bonheur du peuple malien que nous allons toujours nous concerter dans l'ambiance et de se comprendre.
Par ailleurs, le président ghanéen présent en exercice de la CEDEAO était en visite de 24 heures à Bamako. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo est venu encourager les autorités de la transition, saluer les progrès réalisés avant d'insister sur un chronogramme détaillé des prochaines élections au Mali. Il a aussi souhaité la mise en place rapide du Conseil national de la transition qui sera l'organe législatif pendant cette période de 18 mois. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Le Cameroun met l'accent sur la création de plus d'emplois et de richesses dans la filière cacao. Ces objectifs sont contenus dans le nouveau plan de développement de cette matière première. Selon ce plan, à l'horizon 2030, le Cameroun doit pouvoir équilibrer la balance commerciale extérieure et accroître la transformation locale du cacao. De Yaoundé, Emmanuel Julentap.
D'importantes réformes ont été adoptées pour la relance de la filière cacao au Cameroun. Parmi celles-ci, la mise sur pied d'un projet unique de relance de ce secteur de l'économie nationale qui emploie environ 2 500 000 personnes selon les chiffres officiels. Lisette Mbamzok, coordonnatrice nationale du projet d'appui au développement du cacao.
Il y a plus de 450 000 petits producteurs. Il faut qu'ils se mettent en groupe. C'est plus facile d'aller former des gens qui sont déjà regroupés. Il y avait jusqu'à 6 projets qui s'occupaient de la filière. Il y a désormais un seul projet qui s'occupe de tout ça. Ça fait que nous avons du début à la fin la possibilité d'accompagner les acteurs.
Le projet en question va coûter 28 milliards de francs CFA au cours des 5 prochaines années. Gabriel Baoré, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural.
Ces actions porteront sur la promotion du matériel végétal de qualité dans le but de faciliter l'accès des producteurs aux semences certifiées de cacao sélectionnées et à fort potentiel de production. Sur le développement des exploitations par l'appui à la densification et à la régénération des vieilles plantations ainsi qu'à la promotion de la création de nouvelles par les jeunes et les femmes.
Avec 600 000 hectares de vergers, une récente étude de l'Union européenne a révélé que la filière cacao génère 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Au cours des 10 prochaines années, le gouvernement veut doubler la production commercialisée du pays, élevée à plus de 264 000 tonnes l'an dernier. Mais l'un des enjeux majeurs reste le défi de la qualité de la fève à commercialiser. Luc Maguar-Mbarga Atangana, ministre du Commerce.
Cette absence ou faiblesse de fermentation et de séchage, c'est un gros défaut qu'il nous faudra corriger.
D'autres innovations sont désormais inscrites en lettres d'or au cours des 10 prochaines années dans la filière du cacao. Par exemple, la traçabilité des produits et des exportations au port, le respect des normes environnementales dans la production du cacao. Cependant, pour le plein essor de cet important maillon de l'économie locale, les exportateurs souhaitent que le gouvernement revoie la fiscalité trop élevée. Apollinaire Ngwe, président du Conseil interprofessionnel du cacao et du café.
Ce problème de la fiscalité
devient un lourd fardeau, pour ne pas dire qui accompagne la plupart des entreprises exportatrices de cacao à la fermeture des portes, à leur disparition des sociétés qui exportent aujourd'hui nos produits de base. Il n'y en a plus beaucoup. Et demain, ça risque d'être au niveau zéro.
Au cours de la dernière campagne cacaoyère, certains producteurs ont vendu le kilogramme du cacao à 1600 francs CFA, soit moins de 3 dollars. Un montant largement supérieur à celui pratiqué dans d'autres pays d'Afrique au cours de la même période. Yaoundé, Emmanuel Jelouta, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seludia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de